Chapitre 9. Mariama rapporta du restaurant chinois des sacs de papier brun tachés d'huile, avec dans son sillage des odeurs de graisse et d'épices dans la chaleur du salon de coiffure. « Le film est fini ?» Elle jeta un coup d'œil à l'écran blanc de la télévision, puis fouilla dans la pile de DVD pour en choisir un autre. « Excuse-moi si je mange, » dit Aïcha à Ifemelu. Elle se percha sur une chaise dans le fond de la pièce et grignota des ailes de poulet frites avec ses doigts, les yeux rivés sur l'écran. Le nouveau film commença par des bandes-annonces, des scènes prises à la va-vite, entrecoupées de flashs lumineux. À la fin, s'élevait une voix masculine nigériane qui disait d'un ton solennel « Procurez-vous votre copie sans tarder !» Mariama mangeait debout. Elle dit quelque chose à Halima. « Je finis d'abord et je mange !» répondit Halima en anglais. « Tu peux aller manger tout de suite si tu veux !» dit aimablement la cliente d'Halima, une jeune femme à la voix claire. « Non, je finis, juste un peu !» dit Halima. Sa cliente n'avait plus qu'une touffe de cheveux dressés sur le devant de sa tête, comme la fourrure d'un animal, tandis que le reste était coiffé en micro-tresses bien régulières qui lui tombaient sur les épaules. « J'ai une heure avant d'aller chercher mes filles à l'école, » dit la cliente. « Combien tu en as ?» demanda Halima. « 2, » dit la cliente. On lui donnait à peine 17 ans. « 2 jolies petites filles. » Le nouveau film venait de commencer. Le visage au large sourire d'une actrice d'âge mûr emplit l'écran. « Oh, oui, je l'aime bien !» dit Halima. « Patience, elle se laisse pas faire !»« Vous la connaissez ?» demanda Mariama à Ifemelu, pointant son doigt vers l'écran. « Non, » répondit Ifemelu. « Pourquoi lui demandait-on toujours si elle connaissait les acteurs de Nollywood ?» Toute la pièce était envahie de forts effluves de nourriture. L'air étouffant empestait l'huile. Pourtant, l'odeur lui donna légèrement faim. Elle mangea une ou deux de ses carottes. La cliente d'Halima inclina la tête d'un côté puis de l'autre, devant le miroir, et dit « Merci beaucoup, c'est superbe !» Lorsqu'elle fut partie, Mariama dit « Si jeune et elle a déjà 2 enfants ?» « Oh, ces gens-là, à 13 ans, elle connaît déjà toutes les positions. Jamais en Afrique !» « Jamais, » reconnut Mariama. Elles se tournèrent vers Ifemelu pour avoir son accord, son approbation. Elle l'escomptait dans ce petit espace commun de leur africanité, mais Ifemelu ne dit rien et tourna une page de son roman. Bien sûr, elles allaient parler d'elle après son départ. Cette fille nigériane, elle se croit importante à cause de Princeton. Regardez sa barre protéinée, elle ne mange plus de vraie nourriture. Elle se moquerait, mais modérément, parce qu'elle était leur sœur africaine, même si elle avait brièvement perdu tout sens commun. Une nouvelle bouffée d'odeur huileuse se répandit dans la pièce quand Halima ouvrit sa gamelle de plastique. Elle mangeait en s'adressant à l'écran de télévision. « Oh, crétin ! Elle va prendre ton argent !» Ifemelu écarta quelques cheveux collés sur son cou. On étouffait dans la pièce. « Peut-on laisser la porte ouverte ?» demanda-t-elle. Mariama ouvrit la porte, la cala avec une chaise. « Cette chaleur est terrible !» Chaque vague de chaleur rappelait à Ifemelu la première, celle de l'été de son arrivée. C'était l'été en Amérique, elle le savait, mais elle avait toujours cru que l'étranger était un endroit froid, avec des manteaux de laine et de la neige, et l'Amérique étant un pays étranger, et ses illusions si tenaces, qu'elle ne pouvait céder à la raison. Elle acheta, en vue de son voyage, le pull le plus épais qu'elle put trouver au marché de Tejuosho. Elle le porta durant tout le trajet, remontant jusqu'au cou la fermeture éclair dans la cabine bourdonnante de l'avion, puis l'ouvrit quand elle quitta l'aéroport avec tante Uju. La chaleur torride l'inquiéta, ainsi que la vieille Toyota à haillons de tante Uju, avec une tache de rouille sur le côté et le tissu des sièges effiloché. Elle regarda les maisons, les voitures et les affiches, tous de couleur terne, désespérément terne. Dans le paysage qu'elle avait imaginé, tous les objets d'usage courant en Amérique étaient peints de couleurs éclatantes. Elle s'étonna surtout à la vue d'un adolescent coiffé d'une casquette de baseball, debout près d'un mur de briques, le visage incliné, le corps penché en avant, les mains entre ses jambes. Elle se retourna pour regarder à nouveau. « Tu as vu ce garçon ?» dit-elle. « Je ne savais pas que les gens faisaient des choses pareilles en Amérique. » « Tu ne savais pas que les gens pissaient en Amérique ?» demanda tante Uju, regardant à peine le garçon avant de porter son attention sur un feu de circulation. « tante, je veux dire qu'ils le font dehors, comme ça. » « Ils ne le font pas habituellement. Ce n'est pas comme chez nous, tout le monde le fait. Ils pourraient être arrêtés, mais ce n'est pas un quartier bien fréquenté de toute façon. » dit tante Uju d'un ton sec. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Ifemelu l'avait remarqué tout de suite à l'aéroport. Ses cheveux tressés n'importe comment, ses oreilles sans pendentif, son étreinte rapide, sans élan, comme si quelques semaines et non des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle s'était vue. « Je suis censée être plongée dans mes livres en ce moment, » dit tante Uju, les yeux fixés sur la route. « Tu sais que mon examen approche. » Ifemelu n'avait pas compris qu'il restait encore un examen. Elle croyait que tante Uju attendait ses résultats. Mais elle dit « Oui, je sais. » Un silence de plomb s'installa entre elles. Ifemelu avait envie de s'excuser, bien qu'elle ignorât de quoi. Tante Uju regrettait peut-être sa présence, maintenant qu'elle était là, dans sa voiture poussive. Le téléphone portable de tante Uju sonna. « Oui, c'est Uju. » Elle prononça « Uju » au lieu de « Uju ».« C'est comme ça que tu prononces ton nom maintenant ?» demanda ensuite Ifemelu. « C'est comme ça qu'on m'appelle ?» Ifemelu se retint de dire « Eh bien, ce n'est pas ton nom. » Au lieu de quoi, elle fit remarquer en Igbo « Je ne savais pas qu'il ferait si chaud ici. »« C'est la première vague de chaleur de l'été, » dit tante Uju, comme si Ifemelu était supposée comprendre les mots « vague de chaleur ». Elle n'avait jamais connu une chaleur aussi torride, une chaleur qui vous enveloppait, sans merci. La poignée de la porte de tante Uju, quand elles arrivèrent à son petit appartement, était brûlante. Dans le salon, Dike se leva d'un bond du sol recouvert d'une moquette, parsemé de petites voitures et de figurines, et il l'embrassa comme s'il se souvenait d'elle. « Alma, c'est ma cousine » dit-il à sa babysitter, une femme au visage las et à la peau claire dont les cheveux noirs étaient retenus en une queue de cheval graisseuse. Si Ifemelu avait rencontré Alma à Lagos, elle aurait pensé qu'elle était blanche, mais elle apprit qu'elle était hispanique, une catégorie américaine qui était étrangement à la fois une ethnicité et une race, et elle se souviendrait d'Alma quand, des années plus tard, elle écrirait un post dans son blog intitulé « Comprendre l'Amérique pour les Noirs non-américains », ce que signifie « hispanique ». Hispanique signifie être fréquemment associé aux Noirs américains dans les statistiques de la pauvreté. Hispanique signifie être légèrement au-dessus des Noirs américains dans l'échelle des races américaines. Hispanique signifie une femme péruvienne à la peau couleur chocolat. Hispanique signifie population indigène du Mexique. Hispanique signifie habitant à l'apparence biraciale de la République dominicaine. Hispanique signifie habitants à la peau plus claire de Porto Rico. Hispanique signifie aussi les Argentins blonds aux yeux bleus. Il suffit de parler espagnol, mais sans venir d'Espagne, et voilà, vous faites partie d'une race appelée hispanique. Mais cet après-midi-là, elle remarqua à peine Alma, ou le salon uniquement meublé d'un canapé et d'une télévision, ou la bicyclette posée dans un coin, car toute son attention se concentra sur Dike. La dernière fois qu'elle l'avait vu, le jour du départ précipité de Lagos de tante Uju, il avait 1 an et pleurait sans arrêt à l'aéroport, comme s'il comprenait le bouleversement qui venait de transformer sa vie, Et aujourd'hui, elle avait devant elle un écolier à l'accent parfaitement américain qui rayonnait de bonheur. Le genre d'enfant qui ne peut jamais rester tranquille et n'a jamais l'air triste. « Pourquoi as-tu un pull ? Il fait beaucoup trop chaud pour porter un pull » dit-il avec un rire moqueur sans la lâcher, prolongeant son étreinte. Elle rit. Il était si petit, si innocent, et cependant, il y avait quelque chose de précoce chez lui, mais une précocité joyeuse. Il ne nourrissait pas de sombres intentions envers les adultes qui l'entouraient. Le soir, lorsque tante Uju et lui furent couchés et qu'Ifemelu se fut installé sur une couverture à même le sol, il dit « Pourquoi elle doit coucher par terre, maman? Nous pouvons tenir dans le lit tous les trois ?» Comme s'il se rendait compte des sentiments d'Ifemelu. Il n'y avait rien à redire à cet arrangement. Après tout, elle dormait sur des nattes quand elle allait voir sa grand-mère au village. Mais elle était en Amérique, la glorieuse Amérique, et elle ne s'était pas attendue à devoir dormir par terre. « Je suis très bien, Dicky, » dit-elle. Il se leva et lui apporta son oreiller. « Tiens, il est doux et confortable. » Tante Uju dit « Dicky, reviens te coucher. Laisse dormir ta tante. » Ifemelu n'arrivait pas à dormir. Son esprit était trop occupé par la nouveauté de ce qui l'entourait. Et elle attendit d'entendre tante Uju ronfler pour se glisser hors de la chambre et allumer la lumière dans la cuisine. Il y avait un gros cafard sur le mur près des placards, se déplaçant de haut en bas et de bas en haut, très lentement, comme s'il respirait profondément. Dans leur cuisine, à Lagos, elle aurait trouvé un balai et l'aurait tué. Mais ici, elle laissa le cafard américain tranquille et alla se poster devant la fenêtre du salon. Cette partie de Brooklyn s'appelait Flatlands, avait dit tante Uju. La rue en contrebas était mal éclairée, bordée non pas d'arbres verdoyants, mais de voitures garées les unes derrière les autres. Rien de semblable aux jolies rues du Cosby Show. Ifemelu s'attarda un long moment, se balançant d'un pied sur l'autre, submergée par la nouveauté. Mais elle était aussi traversée par un frisson d'espérance, par l'impatience de découvrir l'Amérique. « Je pense qu'il est préférable que tu t'occupes de Dicky pendant l'été et m'évites de payer des babysitters, et que tu commences ensuite à chercher un job quand tu seras à Philadelphie », dit tante Uju le lendemain matin. Elle avait réveillé Ifemelu, lui avait donné rapidement des instructions concernant Dicky, disant qu'elle se rendrait à la bibliothèque après le travail. C'était un vrai moulin à paroles. Ifemelu aurait bien aimé qu'elle parle un peu plus lentement. « Tu ne peux pas travailler avec un visa d'étudiant. Et la formule travail-étude de l'université, c'est n'importe quoi. Ça ne rapporte rien. Et il faut que tu puisses payer ton loyer et le reste de tes frais de scolarité. Moi, comme tu peux voir, j'ai 3 jobs. Et pourtant, ce n'est pas facile. J'ai parlé à une de mes amies. Je ne sais pas si tu te souviens de Ngozi Okonkwo. Elle est maintenant citoyenne américaine et elle est rentrée au Nigeria pour quelque temps, pour monter une affaire. Je l'ai suppliée et elle est d'accord pour te laisser travailler avec sa carte de sécurité sociale.
Comment ça? J'utiliserai son nom?
Bien sûr que tu utiliseras son nom, dit tante Uju en haussant les sourcils, presque sur le point de traiter Ifemelu d'idiote. Tante Uju avait une tache de crème blanche dans les cheveux, à la racine d'une de ses tresses. Et Ifemelu faillit lui dire de l'essuyer, mais elle changea d'avis, ne dit rien, et regarda tante Uju se hâter vers la porte. Elle se sentait mortifiée par le reproche de tante Uju. On eût dit qu'entre elles, une intimité de longue date avait disparu. L'impatience de tante Uju, cette nouvelle irritabilité chez elle, donnait à Ifemelu l'impression qu'il y avait des choses qu'elle aurait déjà dû savoir, et que c'était sa faute si elle ne les connaissait pas. « Il y a du corned beef, tu peux faire des sandwichs pour le déjeuner », avait dit tante Uju, comme si ces mots étaient parfaitement normaux et ne demandaient pas un préambule ironique concernant le fait que les Américains mangeaient du pain au déjeuner. Mais Dicky ne voulut pas de sandwich. Après avoir montré à Ifemelu tous ses jouets et regardé avec elle plusieurs épisodes de Tom et Jerry, riant aux éclats parce qu'elle les avait déjà tous vus au Nigeria et lui racontait à l'avance ce qui allait arriver, il ouvrit le réfrigérateur et lui montra ce qu'il désirait qu'elle lui prépare. « Hot dogs !» Ifemelu examina ses curieuses saucisses allongées, puis ouvrit les placards à la recherche d'huile.
« Maman dit que je dois t'appeler tante Ifem, mais tu n'es pas ma tante, tu es ma cousine. »«
Alors appelle-moi cousine. »«
Ok, coz, » dit Dike en riant. Son rire était si chaleureux, si franc. Elle avait trouvé de l'huile végétale.
« Tu n'as pas besoin d'huile, » dit Dike.
« On les cuit simplement dans l'eau. »«
Dans l'eau ? Comment peut-on cuire une saucisse dans de l'eau ?»«
C'est un hot dog, pas une saucisse. »
Bien sûr que c'était une saucisse, même s'il lui donnait ce nom ridicule de « hot dog ». Elle en fit donc frire deux dans un peu d'huile, comme elle le faisait avec les saucisses satis roulées dans de la pâte. Dike la contempla, horrifiée. Elle ferma le gaz. Il se recula et dit « berk ». Ils restèrent à se regarder, avec entre eux une assiette contenant un petit pain et deux hot dogs racornis. Elle comprit alors qu'elle aurait dû l'écouter.
Est-ce que je peux avoir à la place un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture ?
Demanda Dike. Elle suivit ses instructions pour le sandwich, découpa la croûte du pain, étala d'abord le beurre de cacahuète, réfrénant son envie de rire en voyant avec quelle attention il l'observait, comme si elle pouvait subitement décider de faire frire le sandwich.
Quand ce soir-là, Ifemelu lui raconta l'histoire du sandwich, tante Uju dit sans la moindre trace de l'amusement qu'elle escomptait « Ce ne sont pas des saucisses, ce sont des hot dogs. »
C'est comme dire qu'un bikini n'est pas la même chose que des sous-vêtements. Un extraterrestre verrait-il la différence ?
Tante Uju haussa les épaules. Assise à la table, un ouvrage de médecine ouvert devant elle, elle mangeait un hamburger sorti d'un sachet de papier froissé. Elle avait la peau desséchée, les yeux cernés, l'air morose. Elle semblait fixer le livre sans le lire. À l'épicerie, tante Uju n'achetait jamais ce dont elle avait besoin. Elle achetait ce qui était en promotion et se persuadait qu'elle en avait besoin. Elle prenait le prospectus coloré à l'entrée du Key Food et partait à la recherche des articles en promotion, rayon après rayon, pendant qu'Ifemelu poussait le caddie et que Dike marchait à côté d'elle.
« Maman, je n'aime pas celui-là. Prends le bleu, » dit Dike en voyant tante Uju mettre des boîtes de céréales dans le caddie.
« J'en achète une et l'autre est gratuite.
Elles n'ont pas bon goût.
Elles ont exactement le même goût que tes céréales habituelles, Dike. »
« Non. »
Dike s'empara d'une boîte bleue dans le rayon et partit en courant vers la caisse.
« Bonjour, petit homme. »
La caissière était une grande femme à l'air enjoué, avec des joues rouges qui pelaient à la suite d'un coup de soleil.
« Tu donnes un coup de main à ta maman ?»«
Dike, remets ça à sa place !»
dit tante Uju, avec l'accent traînant et nasal qu'elle affectait quand elle parlait à des Américains blancs, en la présence d'Américains blancs, à portée de voix d'Américains blancs. Et avec cet accent se révélait une nouvelle personnalité, prête à s'excuser et à se rabaisser. Elle était trop empressée envers la caissière.
« Désolée, désolée, » dit-elle en cherchant sa carte de crédit dans son portefeuille.
Voyant la caissière l'observer, tante Uju laissa Dike garder les céréales, mais, dans la voiture, elle lui saisit l'oreille gauche et la tira en la tordant.
« Je t'ai déjà dit de ne jamais rien prendre à l'épicerie, tu comprends ? Ou tu veux une gifle pour t'aider à comprendre ?»
Dike porta sa paume à son oreille. Tante Uju se tourna vers Ifemelu.
Voilà comment se comportent les gamins dans ce pays. Jen m'a même dit que sa fille l'a menacé d'appeler la police quand elle la frappe. Tu imagines ? Je ne blâme pas la fille. Elle est venue en Amérique et a appris qu'on peut appeler la police.
Ifemelu pressa le genou de Dike. Il ne la regarda pas. Tante Uju conduisait un peu trop vite. Dike appela depuis la salle de bain où on l'avait envoyé se brosser les dents avant d'aller au lit.
Dike ? « Imechago ?»
demanda Ifemelu.
« S'il te plaît, ne lui parle pas Igbo, » dit tante Uju. « Parler deux langues risque de le perturber. »«
Qu'est-ce que tu racontes, tante ? Nous parlions deux langues quand nous étions enfants. »«
Nous sommes en Amérique. C'est différent. »
Ifemelu se retint de répondre. Tante Uju referma son livre de médecine et regarda dans le vide devant elle. La télévision était éteinte.
et un bruit d'eau leur parvenait de la salle de bain.
Tante, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas?
Que veux-tu dire, il n'y a rien?
Tante Uju poussa un soupir. J'ai raté mon dernier examen. J'ai eu les résultats juste avant ton arrivée.
Oh!
Ifemelu la regardait attentivement.
Je n'ai jamais raté un examen de ma vie. Mais il ne contrôlait pas de véritables connaissances, il contrôlait ta capacité à répondre rapidement à un questionnaire à choix multiples qui n'avait rien à voir avec les connaissances médicales.
Elle se leva et alla à la cuisine.
Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je croyais que dorénavant tout s'arrangerait pour moi et pour Dike. Ce n'est pas comme si quelqu'un m'aidait et que je ne voyais pas l'argent filer. J'étudie et j'ai 3 emplois. Je travaille comme vendeuse au centre commercial, assistante de recherche, et j'ai même fait quelques heures au Burger King.
Les choses vont s'améliorer, dit Ifemelu en désespoir de cause. Elle se rendait compte que ses paroles sonnaient creux. Rien ne lui était familier. Elle était incapable de réconforter Tante Uju, faute de savoir comment faire. Quand Tante Uju parlait de ses amis qui étaient arrivés avant elle en Amérique et avaient réussi leurs examens, Ketchy, dont le Maryland lui avait envoyé le service de table, Kemi, dont l'Indiana lui avait acheté le lit, Osavisa avait envoyé de la vaisselle et des vêtements depuis Hartford, Ifemelu disait « Que Dieu les bénisse !» et les mots paraissaient maladroits et vains dans sa bouche. D'après les coups de téléphone que Tante Uju passait à la maison, elle avait supposé que les choses n'allaient pas trop mal, encore qu'elle se rendit compte à présent qu'elle était toujours restée vague, mentionnant le travail et les examens, sans donner de détails. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas demandé de détails, n'avait pas voulu entendre les détails. Et elle songeait, en l'observant, que la tante Uju d'avant n'aurait jamais porté des tresses aussi mal finies. Elle n'aurait jamais toléré les poils incarnés qui poussaient comme des raisins secs sur son menton, ni le pantalon usagé qui faisait de gros plis entre ses jambes. L'Amérique l'avait domptée.